Chapitre 10. Haut dans le ciel, des mouettes suivaient à la trace le randonneur des vagues. Fasciné, Nathan vint se joindre aux marins accoudés au bastingage pour contempler l'étrange spectacle qui s'offrait à eux à perte de vue. Par centaines de milliers, des méduses flottaient à la surface comme des bulles de savon. De la taille d'une tête de bœuf, elles pulsaient comme de la matière cérébrale transparente par endroits. Dépourvues de cerveau, justement, ces créatures ne menaçaient en rien le randonneur, qui fendait les flots comme si de rien n'était. Certaines percutaient la coque, y laissant une marque gluante, mais la plupart s'écartaient simplement du chemin. Sur le pont, le capitaine Ellie ouvrait grand les yeux.
« En avant toutes! Si c'était un serpent de mer ou un kraken, je m'inquiéterais, mais ces méduses sont une nuisance, rien de plus !»
Bannon se tourna vers Nathan, devenu son mentor quasi officiel.
« Chez moi, je n'en ai jamais vu de si grosses. » Mais de plus petites viennent parfois près du rivage, dans les criques tranquilles où un garçon aime bien se baigner avec son copain. Ces bestioles font très mal. »
Le jeune homme soupira, plongé dans ses souvenirs.
« Yann et moi, nous avions déniché un lagon très retiré, où l'eau était à la bonne température. Mais nous n'avions pas repéré les méduses. Un jour, elles nous ont attaqués. Ma jambe a gonflé comme une carcasse de porc mort depuis une semaine. Yann, c'était pire encore. » On a eu du mal à rentrer chez nous, et mon père a râlé parce que je n'avais pas pu travailler au champ pendant 2 semaines. »
Le jeune homme se rembrunit, puis en un éclair, il redevint tout joyeux.
« On a bien ri de tout ça. Dire que nos méduses faisaient juste la taille de mon poing. »
Il se pencha pour mieux voir les créatures.
« Chacune de celles-ci pourrait tuer un homme, 5 fois plutôt qu'une. »
« Mourir une fois est largement suffisant, » souffla Nathan.
Il appréciait de plus en plus Bannon, un garçon sérieux et déterminé. Peut-être un peu trop naïf, mais ça n'était pas à proprement parler un défaut. Les romans du prophète, par exemple « Les aventures de Bonnie Day », s'adressaient à de jeunes gens comme le rouquin. Une manière de leur faire découvrir le monde en les distrayant. Jusque-là, Nathan n'avait rien vu qui aurait pu empêcher de prendre Bannon sous son aile. Sur le pont, Nietzsche se tenait à l'écart des marins. Ses cheveux blonds battant au vent, elle sondait l'horizon. Très moulante, sa robe noire soulignait sa poitrine et accentuait ses courbes. À bord, elle avait décidé de ne pas mettre ses bas noirs et ses bottes de voyage, dévoilant des mollets joliment galbés. Une femme splendide, à la façon d'une œuvre d'art, faite pour être admirée, mais qu'on n'a pas le droit de toucher. De temps en temps, Bannon la regardait avec le mauvais type de lueur dans les yeux. Pas de la lubricité, mais une passion déplacée. Nathan devrait y mettre de l'ordre pour éviter des problèmes. Le gamin n'avait aucune idée de ce qu'il attendait s'il s'engageait sur cette voie. Baissant le ton, Bannon souffla à l'oreille du sorcier.
« On l'appelait vraiment la maîtresse de la mort ?»
Nathan sourit.
« Mon garçon, notre Nietzsche était une des femmes les plus craintes de l'ordre impérial. » Elle a sur les mains le sang de milliers de gens.
Des milliers?
Plutôt des dizaines de milliers, voire des centaines. Oui, des centaines de milliers serait plus juste.
Bien que Nietzsche soit en principe trop loin pour entendre, Nathan la vit sourire, ce qui l'encouragea à continuer.
Avant de servir Jagang, elle a été pendant des années une sœur de l'obscurité, dévouée aux gardiens.
Regardant autour de lui, Nathan vit que d'autres marins écoutaient et en prenaient de la graine. Alors que Bannon s'extasiait sur le passé de la magicienne, ça leur fichait carrément la trouille. Une très bonne chose, la peur inspirant bien souvent le respect.
Mais c'était avant qu'elle s'allie au seigneur Ral. Revenue vers la lumière, elle a combattu héroïquement pour la liberté. T'ai-je dit qu'elle a arrêté le cœur de Richard pour l'envoyer dans le royaume des morts?
Elle l'a tué?
Provisoirement, pour qu'il puisse sauver Callan, sa bien-aimée. Mais c'est une autre histoire. »
Nathan tapa sur l'épaule de Bannon.
« En mer, on a beaucoup de temps pour en raconter, inutile de tout dire aujourd'hui. »
Bannon ne cacha pas sa déception.
« Moi, j'ai eu une vie ennuyeuse sur une île assommante. Rien d'intéressant à raconter. »
« Et l'attaque des méduses? Tu dois avoir d'autres récits de ce calibre. »
Le jeune homme se pencha par-dessus le bastingage pour observer les méduses qui se percutaient les unes les autres avec de grands bruits mous.
Ce n'était peut-être que mon imagination. Quand on dérive seul dans un petit bateau, en plein brouillard, l'esprit s'emballe vite.
Par les esprits du bien, mon garçon, l'imagination, c'est essentiel pour un récit.
Je t'écoute.
Vous avez entendu parler des Selkas, des êtres qui vivent sous l'eau et épient les habitants de la surface? Depuis les profondeurs, ils regardent passer nos bateaux qui ressemblent pour eux à des sortes de nuages en bois dans un ciel liquide.
Les Selkas? Un peuple de la mer?
Oui, je vois. Si ma mémoire ne me trompe pas, et elle est aussi acérée qu'un couteau aiguisé de la veille, les Selkas furent créés par les anciens sorciers. Des humains altérés par la magie pour devenir des combattants. Un peu comme les Mriswis ou la Sleef. Ces êtres constituaient une armée sous-marine prête à attaquer des vaisseaux ennemis.
Mais ils n'existent plus, sauf dans les légendes.
Je n'avais jamais entendu cette partie de l'histoire.
Sur Shiria, on raconte simplement des anecdotes sur ce peuple. Par exemple, on dit que les Selkas peuvent exaucer les vœux d'une personne.
Nathan ricana.
Si j'avais une pièce de cuivre pour chaque créature censée pouvoir exaucer les vœux, je serais assez riche pour ne plus rien avoir à souhaiter.
C'est vrai, je l'ignorais. Mais on disait ça au village, et parfois on a envie de croire aux belles histoires.
Désolé d'avoir brusqué son ami, Nathan acquiesça.
J'ai connu ça, moi aussi, petit.
Le regard dans le vide, comme s'il ne voyait plus les méduses, Bannon baissa la voix.
Et il y a des moments où une personne malheureuse essaie de fuir. J'étais un jeune idiot, trop jeune pour se savoir idiot.
Je me demande si tu n'en es pas toujours là, mon gars,
pensa Nathan. Mais il garda pour lui cette réflexion.
Je suis parti dans une barque de pêche décidé à quitter Shiria pour toujours, une île où je n'avais pas d'amis.
Et Yann, l'autre victime des méduses?
À cette époque, il n'était plus là. Je suis parti au crépuscule, au moment de la marée haute, certain que la lune me permettrait de naviguer. J'espérais voir les Selkas, même si, dans mon cœur, je ne croyais pas à leur existence. On m'a raconté tellement de mensonges.
Une nouvelle fois, Bannon se rembrunit, mais il se ressaisit très vite.
Il y a toujours une chance, pas vrai? J'ai ramé dans la nuit, puis sous la lumière de la lune et des étoiles, jusqu'à ce que mes bras ne veuillent plus bouger. Après, je me suis laissé dériver. Pendant une heure, au début de ma fugue, je voyais encore les lumières des villages, puis elles ont disparu.
Tu croyais aller où en te laissant emporter par l'océan?
Je savais que l'ancien monde était par là. Un continent où se dressaient des villes comme Tanimura, Kerimus ou Andalio. Si j'allais assez loin, m'étais-je dit, je devais obligatoirement y arriver. C'est idiot, je sais, mais naître sur une île ne donne pas une très bonne idée des distances. Après une nuit à dériver, tout ce que j'ai vu, c'est de l'eau partout et à perte de vue, comme aujourd'hui. Bien entendu, je n'avais pas emporté de boussole et pas assez de vivres non plus. Après toute une journée à dériver sous le cagnard, j'ai commencé à m'inquiéter. Le jour, j'avais cuit et la nuit, j'ai cru mourir de froid. Le troisième jour, à court d'eau et de vivres, je me suis senti idiot. Pas de côte en vue, aucune idée de la direction à suivre, même pas pour retourner sur mon île. J'avoue sans honte avoir pleuré comme un enfant. Debout dans la barque, j'ai crié avec l'espoir que quelqu'un m'entende. Après, je me suis senti encore plus idiot. La nuit suivante, le brouillard s'est levé. Froid, humide et assez épais. Je grelottais, incapable de voir plus loin que le bout de ma barque. Dans le ciel, la lune ressemblait à une lointaine étincelle.
Bannon baissa encore la voix.
La nuit, dans le brouillard, on entend des sons très lointains et on perd le sens des distances. J'ai cru capter des bruits de requins alors qu'ils nagent en silence, puis une voix désincarnée. Bien sûr, j'ai appelé au secours. Au fond, c'était peut-être les Selkas venus me sauver. Le bon sens me souffla qu'il s'agissait plutôt d'une baleine ou même d'un serpent de mer. J'ai crié, mais sans obtenir de réponse. Peut-être dérangé, la créature s'est éloignée et je suis resté seul après qu'un dernier plouf étouffé eut retenti. Une seconde, j'ai cru entendre un éclat de rire, mais ça ne pouvait pas être possible. Angoissé, épuisé, mort de soif et de faim, J'ai fini par sombrer dans un sommeil proche du coma. »
Nathan sourit pour encourager son jeune ami.
« Tu as la patte d'un romancier, mon garçon. Ton récit me tient en haleine. Comment t'en es-tu sorti ?»«
Je n'en sais rien, fichtre rien. »
Le sorcier fronça les sourcils.
« Dans ce cas, tu dois trouver une meilleure fin à ton histoire. »
« Il y en a une, messire. Le matin, en me réveillant, au lieu du silence de la mer, j'ai entendu des clapotis d'eau sur une berge. M'avisant que la barque ne tanguait plus, je me suis levé et j'ai failli en tomber sur les fesses. Je m'étais échoué sur une île, Chiria en fait, dans le lagon où Yann et moi aimions nager.
« Comment es-tu arrivé là ?»
Bannon haussa les épaules.
« Douce mer, la mer, je n'en sais rien, je vous l'ai déjà dit. » Pendant que j'étais inconscient, quelqu'un ou quelque chose m'a ramené chez moi.
Tu es sûr que le courant ne t'a pas fait tourner en rond? Avec le brouillard, tu ne t'en serais pas aperçu. Ne me dis pas que... Tu crois que les Selka t'ont sauvé?
Bannon parut embarrassé.
Je dis simplement que je me suis retrouvé à mon point de départ sans savoir pourquoi. Avec toutes les îles éparpillées dans la mer, je suis retourné chez moi, dans mon lagon.
Le jeune homme se tut un moment, regarda le sorcier et sourit.
Dans le sable près de la barque, échoué bien plus en avant sur la plage que si la marée l'y avait poussé, j'ai vu une empreinte.
De quel genre ?
Presque humaine, mais avec des orteils palmés comme chez une créature de la mer. Et plus que des orteils, on aurait dit des griffes, mais très pointues et très fines.
Quelle belle histoire ! Et tu prétends qu'il ne t'est jamais rien arrivé?
Ce ne sont que des suppositions.
La marée de Méduse ne semblait pas vouloir se retirer. Encouragé par ses camarades, le colosse Karl s'empara d'un harpon à pointe barbelée et fixa une corde à la hampe. Sous les vivats des autres marins, il se pencha par-dessus le bastingage et lança son arme sur une méduse qui se transforma aussitôt en une bouillie fumante. Sans doute effrayé par ce cadavre, les créatures environnantes s'en éloignèrent comme une nuée d'insectes dérangés par un prédateur. Hilar, les autres marins allèrent chercher des harpons, mais quand Karl eut ramené le sien, il grogna de surprise.
« Regardez ça !»
La pointe fumait aussi et se désintégrait, comme rongée par de l'acide. Les autres matelots s'immobilisèrent, bras armés pour lancer leurs harpons. La chasse à la méduse ne devait pas se passer comme ça. Intrigué, Karl voulut toucher la pointe fumante, mais Nathan s'écria
« Laisse ça si tu ne veux pas perdre une main !»« Je vous ai dit de ficher la paix à ces méduses !»
rugit le capitaine Ellie.
« La mer est assez dangereuse comme ça, inutile d'en rajouter !»
Les marins baissèrent le bras, puis posèrent les harpons.